Montréal 24 sur 24 présente Non-Stop, un marathon de 36 heures de danse en continu célébrant la culture nocturne. Une première au Canada. Ça commence le vendredi soir 19 mai à 22 heures et ça se termine le dimanche 21 mai à 8 heures du matin au Grand Quai du Port de Montréal. Au programme, 15 des plus excellents DJ d'ici et d'ailleurs, tels que VTSS, Jacques Green, DJ Minx, TSVI, Kiernan Levo et plus encore. En plus, une scène extérieure gratuite le samedi 20 mai en journée. Dépêchez-vous, les places sont limitées. Billets disponibles. Disponible sur mtl2424.ca. Montréal 24 sur 24, une autre nuit est possible.
Salut, c'est Superplage, vous écoutez choc.ca.
Bonjour et bonsoir et bienvenue à cette toute nouvelle émission des Amazones. Et oui, déjà épisode 225. Et pour cette première émission estivale, donc enregistrée le 16 mai à choc.ca, une journée morne, grise, il pleuvait. En plus, il annonce full fret dans les prochaines journées. Il va faire genre 2-3 des fois, comme la nuit. Comme on est presque en juin, c'est fucked up. Mais ça tombe bien parce que aujourd'hui je suis avec quelqu'un d'excessivement chaleureux. Donc, oh. Amélie.
Hello!
Puis en plus, Amélie, on va parler de quelque chose qui se fait bien lorsqu'on n'a pas envie de sortir.
Oh, tellement! Tu prends ta grosse couette, ton petit café ou ton thé, comme tu veux, et puis là, tu prends ta manette.
Tu prends ta manette. Ouais, en fait, on s'est écrit puis on s'était dit que ça serait une bonne idée, donc de faire un épisode, donc de suggestions de jeux vidéo qui sont soit de base pas chers ou qui le sont devenus à travers le temps. Puis ça, c'était quelque chose que vous m'avez entendu dire souvent en ondes, c'est quelque chose que je promeus beaucoup, en fait, le fait que souvent quand les gens souvent, quand les gens me parlent de jeux vidéo puis qu'ils me disent « Ah, ben » ou que je les vois comme avoir essayé le nouveau jeu AAA qui a été encensé ou non, peu importe, là, mais tu sais, comme qui sort dans... Tu sais, comme le jeu est sorti 3 semaines plus tard, ils ont déjà tout fini, là.
Ben, genre là, Zelda vient de sortir et j'ai une amie qui a passé genre 48 heures dessus, on l'a pas vue, elle n'existe plus.
Ben, c'est ça. puis c'est super chill, tu sais, de vouloir comme découvrir un jeu au moment de sa sortie, là, je veux dire, ouais. Comme tout le monde... comprends pourquoi c'est la même façon qu'on va au cinéma et tout ça, mais à un moment donné, ça reste une question de privilège. C'est un privilège de pouvoir se payer des jeux AAA à 90$. Puis je dis ça, là, j'ai vu des jeux encore plus chers que ça. Là. Puis j'ai déjà payé des jeux plus chers que ça quand c'était des espèces d'éditions.
Édition collector avec.
Exactement.
Je suis complètement coupable de faire ça.
Mais c'est ça, mais tu sais, tu fais ça pas tout le temps.
Non.
Puis, mais c'est ça. Puis souvent, quand les gens étaient comme « Ah, t'as pas encore joué? Ah, tu joues! » T'es juste rendu là dans la série de jeux, puis c'est comme « Ouais, mais moi, j'en ai pas d'argent tant que ça. » Puis tu sais, comme, je suis pas pressée. Tu sais, je veux dire, il y a des jeux d'il y a 5 ans qui me font encore plaisir, puis que j'ai pas fini, puis que je vais finir avant d'acheter le jeu AAA qui vient de sortir. Mais bref, fait que tout ça pour dire que c'est quelque chose que je promets beaucoup, le fait de comme ben arrêter de critiquer quelqu'un qui a pas encore joué au nouveau jeu. On le sait pas pourquoi. Manque de temps, manque d'énergie, manque d'argent, peu importe, c'est pas grave. Mais si le temps, l'énergie et l'envie de jouer est là chez vous, on vous a préparé donc une petite sélection pas piquée des verres, donc pour justement égayer votre été, vos vacances qui vont peut-être arriver ou vos soirées ou dans les prochaines semaines, il va faire pas beau encore et que vous voulez donc vous récompenser. Donc, c'est sûr qu'il y a des jeux là-dedans qu'ils sont pas chers momentanément. Donc, au pire, je sais pas si toi tu fais ça, là. Moi, des fois, j'ai des trucs dans ma wishlist. Là, pis,
Oh my God. Ma wishlist sur Steam, elle est à peu près à 250 jeux.
Ah là, ouais, hein?
Chaque fois, mon premier... En fait... Quand j'arrive sur mon ordinateur, mon réflexe, c'est de lancer Steam, puis d'aller ensuite voir les découvertes, tu sais, qui me met 10 jeux, et puis tous les jeux qui me paraissent intéressants vont dans ma wishlist.
Mais c'est ça, puis des fois, on est vraiment surpris, là, tu sais, comme, ouais. Ça m'est arrivé des fois de faire comme, oh, il y a un vraiment gros spécial, là, genre, le jeu est rendu à 2$, puis là, t'es ouais. comme, what? C'est là qu'il faut sauter dessus. Fait qu'évidemment, si vous avez un compte Steam ou un...
Oui, Steam, Epic, je pense que je les ai tous, puis mes Sims 4, je l'ai eu gratuit, j'ai eu des DLC que j'ai eu gratuit, parce que j'attends d'avoir la grosse promotion qui me dit « Hey, achète-le maintenant mm-hmm. !» Puis il y a plein de jeux comme ça, bon, j'ai mis du temps, mais mes collections de Civilization 6, par exemple, pareil, je les ai pas achetées dès qu'elles sont sorties, je les ai eues quand c'était en bundle, où au lieu d'avoir $50 le jeu, bah t'as $50 le jeu plus les 3 DLC qui vont avec.
Exact, ouais.
Donc, j'ai beaucoup, beaucoup de collections qui sont en fait faites comme ça dans mes jeux PC. Mes jeux consoles, c'est pareil. J'achète souvent des collections, des collector edition, mais genre 4-5 ans après qu'elles sont sorties.
ben c'est ça, tu sais, la même chose. Moi, en ce moment, je joue à Assassin's Creed Odyssey. J'adore ce jeu-là.
Je l'ai beaucoup aimé.
Ben je pense que le jeu, il est bon en soi.
Ouais.
Mais je pense que je retrouve dans ce jeu-là ce que beaucoup de gens retrouvaient, mettons, avec un Red Dead Redemption 1 et 2. C'est premièrement le côté open world, évidemment. Mais tu sais, le fait que aujourd'hui, j'ai envie de faire ça, m'en faire ça. Aujourd'hui, j'ai envie de faire ça, m'en faire ça. Aujourd'hui, j'ai envie d'explorer. Aujourd'hui, j'ai envie de chasser des animaux pour comme gagner tel achievement. Aujourd'hui, j'ai envie d'avancer la main quest. Aujourd'hui, j'ai envie d'en lancer mes side quests. Aujourd'hui, j'ai envie de compléter des localisations. Peu importe ce que j'ai envie de faire, il y a tout le temps quelque chose à faire. Fait que c'est comme un jeu qui s'adapte bien à ton mood.
Ouais.
Mais je l'ai payé. Valhalla était déjà sorti.
Ouais.
Puis j'avais acheté genre l'espèce de Gold Edition. Mais j'avais payé ça cher. Là. Je pense que j'avais payé ça comme 80$ là, t'sais, ou quelque chose de même. Mais c'était comme tout était inclus.
Ouais.
Mais ouais. Moi, les DLC, en tout cas, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Là. Mais... Moi, je suis fâchée contre les DLC en général depuis Dragon Age Inquisition.
Hein.
C'est drôle parce que j'ai mon partenaire qui a fini Dragon Age Inquisition genre la semaine passée, je pense, qui avait jamais joué au Dragon Age, puis là, il a passé les 3. Puis j'ai fait comme... Moi, pour vrai, je pense que c'est ma plus grande frustration de tous les temps. C'était l'esprit de DLC de Dragon Age Inquisition que j'ai pas joué, que j'ai regardé en ligne.
Trespasseur.
Ouais.
Ouais, je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus Awakening dans le même genre, tu sais, qu'il fasse comme une suite, mais qui n'est pas vraiment une suite. Enfin bref, c'est sûr que...
Mais pour moi, c'est parce que c'est la vraie fin.
Oui, c'est plus ou moins
la vraie fin. Comme, t'as mis la fin de ton jeu derrière un paywall.
Ouais.
Ça m'a tellement fâché, là. Tu sais, alors que t'as d'autres jeux où est-ce que c'est... C'est pas que c'est la vraie fin, mais c'est comme... des quests supplémentaires, peut-être une guilde supplémentaire, tu sais, des choses comme ça, je trouve que ça a plus de sens que de mettre ta vraie fin derrière un paywall. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. je vais... T'as quand même une très, très large sélection. Je vais te laisser commencer, tiens, avec une ouais. première suggestion.
Ben, si on parle de jeux qui sont sortis tout récemment et autres, je vais commencer juste avec les Coffee Talk.
Parce que je connaissais pas du tout.
Coffee Talk 2 est sorti il y a genre un mois, même pas, quelque chose comme ça. Donc, grosso modo, c'est des jeux un peu visual novel, gestion de café, où t'es une personne qui vit, c'est comme un monde, un Seattle alternatif. Mm-hmm. Où, oui, les humains existent, mais ils cohabitent avec des ogres, avec des démons, avec des elfes, etc., etc. Puis, toi, tu gères un café, et en fait, c'est les habitués qui viennent dans ton café, qui te racontent leur vie, puis tu leur sers ce qu'ils veulent boire, mais des fois, ils vont être en mode, j'ai pas trop le bon mood aujourd'hui, je voudrais quelque chose avec de l'amertume, puis t'es comme, ok, bon, je vais lui faire un thé vert, mais qu'est-ce que je vais lui mettre dedans et tout. Donc, le premier était beaucoup comme ça, il y avait une espèce d'alien qui venait pour découvrir la Terre, puis Coffee Talk 2, ça reprend, en fait, un peu plus tard dans le futur, c'est une suite directe, donc t'as des nouveaux personnages, mais t'as aussi des anciens du premier qui sont là, avec leur évolution, certains ont grandi, certains sont devenus plus vieux, certains sont coupe, certains sont plus, puis c'est le même concept, tu leur sers du café aussi, tu fais du coffee heart, tu peux dessiner dessus, etc., etc. Puis là, en plus, bah, t'as des nouveaux mélanges avec de l'hibiscus, etc. Puis en fonction de si tu leur sers le café exactement comme ils veulent, tu développes un peu leurs histoires avec oui, le bon embranchement, où tu vas sur la fin parfaite pour eux, ou au contraire, où ça aurait peut-être pu aller un peu mieux dans leur vie, ou quelque chose comme ça.
Ça influence le fait que leur vie réussit ou pas?
un petit peu. C'est pas grand-chose, tu sais, ça va être par exemple, il y en a un qui se transforme en loup-garou, puis si t'arrives à lui donner le bon café, ben au lieu de détruire ton café, il va se calmer et il va arrêter d'être, enfin il va pas arrêter d'être un loup-garou, mais tu sais, il va comme reprendre le contrôle sur ses pulsions, on va dire. Mm. Puis dépendamment de ça, ben les gens qui sont autour de lui, ils vont plus ou moins avoir, je vais pas dire avoir peur de lui, mais disons qu'ils vont peut-être faire un peu plus l'effort de connecter émotionnellement avec lui ou pas, puis ce genre.
Puis mettons, là, pour les gens comme moi, là, qui jouent pas vraiment à ça, des visual novels, là.
Ouais.
Là, t'as parlé de coffee art, t'as parlé de choix d'ingrédients.
Ouais.
C'est-tu comme assez présent dans le jeu ou c'est comme... Parce que tu te rappelles le jeu que tu m'avais conseillé de jouer, le jeu de détective, là?
Oui, Phoenix Wright, qui est l'un de mes jeux favoris au monde.
Ben oui, puis...
Je me suis acheté les statues des deux personnages, là, récemment, en plus pour mon anniversaire.
Ben c'est ça, mais tu sais, comme moi, j'étais comme, OK, mais il n'y a pas ben d'interaction, là. Je fais juste peser sur A pour avancer le dialogue, là. Fait ouais. que, mettons, est-ce que ça, tu considérais que ça ressemble à ça? Est-ce que tu considérais qu'il y a plus... de gameplay?
Il y a un peu plus de gameplay, mais c'est pas non plus... Il y a beaucoup de dialogue. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses à lire.
Mm-hmm.
C'est un peu comme... je sais pas si t'avais joué à celui-là, Valhalla, qui est cyberpunk bartender.
Non.
C'est un peu le même genre où tu tiens un bar, puis pareil, tu dois faire des cocktails et autres pour leur donner. Et en fonction si tu réussis tes cocktails ou pas, les gens, ils te parlent et ils te racontent leur vie, en fait.
OK. Bon. Mais, dans le fond, pour les gens qui aiment ça, c'est nice.
Pour les gens qui aiment ça, c'est nice. Il y a vraiment une ambiance très, très douce, très... T'as pas de mort d'homme, pas quoi que ce soit. C'est quand même des histoires aussi beaucoup sur, entrées sur l'être humain. T'sais. C'est le malaise, les relations qui fonctionnent pas, les relations qui ont peur d'être dévoilées aussi. T'as deux personnages féminins qui sont amoureuses l'une de l'autre, mais qui n'osent pas se le dire. Enfin, t'as beaucoup de petits éléments comme ça. Donc, c'est quelque chose qui est assez... J'ai vraiment fait une sélection au niveau de mes jeux, en fait, avec le côté quand tu joues, mais t'sais, tu te détends. T'es pas là pour... Je ne veux pas dire que tu n'as pas de stress, c'est pas vrai, il y en a certains qui en ont, mais disons que ce jeu-là particulièrement, je sais qu'il existe sur console, je sais qu'il existe sur Steam, je sais qu'il y a une version sur Switch. Tu joues une heure avant de dormir, quoi. Ça ira. Tu vas passer une bonne nuit après, tu vas être zen.
OK. OK, c'est bon. Puis, je voyais ici que il était à peu près 20$ canadiens chaque, ouais. Les deux, parce qu'il y en a deux. Donc,
il y en a deux. Bah, le premier, je crois qu'il est plus autour de 10-15, et le 2, c'est sûr qu'il est à 20$.
OK. Ben, c'est super. Donc, moi, tu vois, j'ai des jeux qui sont... tu vois, je regarde mes affaires, puis il n'y en a pas tant que je conseillerais de jouer avant de dormir. Peut-être le dernier, là. Mais je vais commencer, en fait, en allant complètement ailleurs, mais il y a beaucoup de lectures aussi.
Ouais.
Mais c'est différent. Est-ce que toi, tu as joué à Anero de Dream World?
Absolument pas.
Est-ce que tu sais c'est quoi?
J'ai cru voir que c'était un jeu genre puzzle, box, quelque chose comme ça.
OK. Fait que la vérité, OK, c'est que je l'ai mis dessus parce que... Mais je l'ai pas fini. En fait, j'ai pas tant avancé. Mais les soirées où j'y ai joué, des heures et des heures, c'est tellement différent de plein d'autres jeux que j'étais comme, je veux vraiment en parler même si j'ai pas fini. Parce que je pense que si c'est un jeu... Je vais vous le décrire, puis si jamais vous trouvez que ça vous appelle, en ce moment, sur Steam, parce que ça se joue uniquement sur PC, il est à 4,99 US. Moi, quand je l'ai acheté, c'était pendant la vente de printemps de Steam, il était genre à 1$, là, je pense. Là. Fait que c'est pas un jeu qui va devenir dispendieux, il l'est pas en ce moment, mais je vous le décris. Grosso modo, vous êtes... c'est très mystérieux. C'est un jeu qui est très mystérieux. Le jeu s'ouvre, on comprend par la voix de la narration qu'on explore un monde de rêve. Mais quand on dit explorer, c'est ce que tu décrivais par rapport à genre puzzle box, là, c'est-à-dire que imaginez un jeu qui est, on va cliquer là-dessus, ça va ouvrir quelque chose, qui va ouvrir quelque chose, mais pas comme The Room, là, tu sais, comme plus c'est ça, là, tu sais, comme clique sur cet item-là, ça va faire des petits flashy, puis là, tu vas devoir répondre à des puzzles. Mais la façon de répondre aux puzzles, les mécaniques sont assez, répétitives,
mm-hmm.
Parce que c'est pas juste un jeu de puzzle, c'est un jeu d'énigmes. C'est beaucoup plus un jeu d'énigmes que de puzzle. Je m'explique. Pour trouver les réponses aux puzzles, aux énigmes, il faut chercher sur Internet.
D'accord.
Donc, c'est un jeu que tu joues avec soit ton téléphone dans les mains ou, mettons, comme moi, j'ai deux écrans. Je joue sur mon écran principal au jeu. Puis sur mon écran secondaire, j'ai un browser d'ouvert pour faire des recherches. Ça nous donne un peu de lore sur une des espèces de fascinations qui occupent les rêves de la personne. On tourne beaucoup autour du mysticisme, on tourne beaucoup autour de l'ère victorienne, on parle énormément de colonisation anglaise pour pas mal plus le pire que le meilleur, je dirais. Chaque section, et il y en a énormément, a comme son propre thème. Il faut un peu penser en termes de toile d'araignée, de mind mapping, là, justement, de comme, OK, j'ai trouvé cette information-là, mais dans le fond, celle-là m'aide à trouver ça, puis tout ça. Fait que c'est vraiment un jeu de creuser puis de faire des recherches, là. Genre, la majorité des réponses, je les ai trouvées sur Wikipédia, là. Mm-hmm. Puis j'ai eu vraiment énormément de plaisir une soirée où j'ai joué avec un ami qui était rendu plus loin que moi dans le jeu. Et là, il pouvait m'entraider avec des petits indices. Parce qu'il n'y a pas vraiment... Il y a des indices, mais j'avoue que je ne les utilise pas parce qu'il y a il y a comme trois nuits, si mm-hmm. tu veux, qui ont chacune leur mapping. Moi, j'en suis qu'au début de la première, tellement il y en a. Puis il y a un nombre restreint d'indices que tu peux avoir. Après, tu n'en as plus.
Ah.
Et c'est un jeu qu'on conseille de jouer de soir, dans le noir, pour nous mettre dans l'ambiance de si t'étais cette personne-là.
Ouais.
Trigger warning, ça parle de santé mentale, mais je suis pas encore assez avancée pour comprendre à quel point ça pourrait... ça pourrait être heurtant,
ouais.
Ou peu importe. Mais on comprend que la personne souffre... la personne fait de l'insomnie. La personne souffre des conséquences de son insomnie. Mais il y a quelque chose de très mystérieux. Parce que quand on réussit certains puzzles, ça nous débloque des sites Internet faits expressément comme si on pouvait explorer l'intranet d'un hôpital. Il y a des réponses qu'il fallait se trouver sur des faux comptes LinkedIn.
Ouais.
C'est vraiment un jeu si vous aimez être des détectives, là, je vais le dire comme ça. C'est pas cher, mais ça joue juste sur ordinateur. Fait que si vous avez... ma carte graphique est bien ordinaire, là, mais c'est un jeu qui est pas si rushant à faire jouer. Mais sinon, le jeu est magnifique. Donc, Anero de Dreamworld, je le conseille si vous aimez vous casser le bessic. Et encore mieux, si vous aimez vous casser le bessic avec un ami qui aime ça, se casser le bessic. Moi, je trouve ça vraiment fascinant, ce genre de jeu-là. Mais on est vraiment dans l'idée un peu de comme escape room, d'énigmes, de connaissances. Vraiment énormément de plaisir. Le problème, c'est que ce temps-ci, je suis tout le temps fatiguée. Fait que les rares fois où est-ce que les rares fois où j'avais énormément d'énergie, là, j'y jouais pendant 5 heures de temps le soir quand mon enfant dort.
Ouais.
Mais sinon, si vous avez... Puis le seul conseil que je vous dirais, là, c'est que justement, vu que c'est beaucoup de recherches de mind mapping puis tout ça, à un moment donné, on finit par avoir comme une espèce de... Tu sais, on trouve plus l'information.
Ouais.
Quand on fait trop d'énigmes, trop de puzzles, à un moment donné, on est comme tout le temps sur le même format. Puis on réussit plus à comme réfléchir, tu sais.
Ouais, c'était que t'as comme un pattern et t'arrives plus à en sortir.
C'est ça. Fait que c'est de se détacher du jeu puis d'y retourner quand vous êtes prêt. Puis si jamais vous êtes comme moi puis que finalement ça fait comme 20 heures que vous cherchez sa même affaire, sachez que toutes les informations sont censées être assez easy à trouver. Mais des fois, c'est juste de comprendre c'est quoi qu'ils essayaient de nous dire. Mais bref, à jouer avec des écouteurs aussi parce que la musique et le son et les voix sont excessivement importantes. Mais je m'arrête, parce que j'en ai déjà dit beaucoup et qu'on en a plein d'autres. Prochain jeu que tu aimerais conseiller?
Mais je vais rebondir sur le côté ère victorienne, de rêve, etc., etc. Puis je vais passer à Cultist Simulator de Weather Factory.
J'adore le titre.
Ouais, qui coûte, donc c'est 23 pièces canadiens, qui a d'ailleurs des DLC aussi à l'heure actuelle. C'est un jeu qu'on trouve sur PC et sur tablette. Le portage tablette est vraiment très très bon. C'est un jeu de cartes, genre de cartes à placer, de gestion, etc., etc., où le but, grosso modo, en fait, tu démarres en tant que l'apprenti, tu trouves un travail et il y a un monsieur qui te donne son trésor et en fait, tu, tu es envahi par des rêves un peu à la Lovecraft, etc., etc., et tu décides de créer un culte pour explorer le mysticisme et faire transcender ton âme. Et dépendamment de comment tu joues tes cartes, ben, soit tu vas mourir dans d'affreuses souffrances, soit tu vas être arrêté par la police parce que avoir un culte, c'est pas bien. Soit tu vas être exposé par les journaux, ou alors tu vas développer justement ton culte par rapport à certaines arcanes. Donc l'arcane de la lumière, l'arcane de... je crois qu'il y a pas la souffrance, mais le plaisir, enfin différentes choses comme ça. Donc le but, c'est vraiment de stocker ton deck le maximum possible en ayant tes cartes et autres, et de ne pas sombrer dans la folie. C'est un jeu très très stratégique qui est aussi roguelike. Donc généralement tu meurs beaucoup au début, puis plus tu meurs et que tu comprends la mécanique, plus tu finis par avancer plus en plus facilement. Très très sympathique à jouer, qui m'a pris beaucoup beaucoup d'heures, qui m'a aussi beaucoup frustrée, parce que mourir j'aime bien, mais arrive un moment j'ai ma limite. Puis que j'ai trouvé très difficile à battre.
Puis c'est un jeu qu'on peut trouver où ?
On le trouve très facilement sur Steam, il est disponible sur les applications Google, tablette, etc., etc.
Moi, les deck builders, là, j'adore ça.
Ouais, celui-là, moi, je l'ai acheté sur Steam, puis je l'ai aussi acheté sur ma tablette. Et honnêtement, j'aime beaucoup la version tablette. Je la trouve très, très bonne. Elle est vraiment agréable à faire, parce que tu peux... Bah, tu sais, je veux dire, t'as tes cartes devant toi, puis tu les bouges, quoi. T'as une table qui s'accroche, puis... je le joue en anglais, en revanche, j'ai pas vu s'il y avait une version française, j'ai pas bien regardé. C'est des Anglais qui ont fait le jeu, c'est des personnes aussi qui ont travaillé, si je me trompe pas, à Fail Better Game à un moment, donc sur Sunless Sky, Sunless Sea. Je sais qu'il y a un petit peu de controverse derrière ça, mais je ne sais plus exactement pourquoi, vous m'excuserez.
Ben, je vais expliquer mon jeu, puis tu feras deux ou trois recherches.
C'est ça.
Mais parce que j'ai vraiment envie de bondir là-dessus, parce que moi aussi, j'avais un deck builder, en fait, en suggestion, puis même affaire que toi, dans le sens que je voulais vraiment parler de Slay the Spire. Slay the Spire, qui est un deck builder roguelike, là. Fait qu'on est exactement dans le même esprit. Mais Slay the Spire, dans le fond, Spire dans le sens d'une flèche. Yep. La flèche, comme on pouvait voir dans Fable 2, par exemple, là, ou dans toutes ces choses-là. Donc, la tour, mystique, magique, et qui, dans le fond, couvre trois étages. On a quatre choix de personnages qui ont les quatre une mécanique complètement différente. Et le but, c'est de vaincre la tour, la flèche. Pour ce faire, donc, on commence avec un deck de base de 10 cartes et on essaye de pas mourir, mais c'est très difficile. Ce que je trouve vraiment cool dans le jeu, c'est que il y a des choses un peu mystérieuses que je vous dirai pas, mais qui finit par unlocker, en fait, des niveaux de difficulté. Mm-hmm. En partant, le niveau de difficulté est à 0 de base et rapidement, on fait comme, oh mon Dieu, j'ai réussi avec le personnage, puis j'ai réussi avec tous les personnages, puis... il se passe des affaires. Et il y a en tout 20 niveaux de difficulté. Je suis rendue en ce moment au niveau 6 de 3 personnages. Ooh. Et au niveau 5 d'un personnage que j'arrive juste pas à battre. Là. C'est vraiment tough. Et j'ai mis des heures dans ce jeu-là. Pourquoi est-ce que je conseille ce jeu-là? Un peu de la même façon que tu décrivais sur mobile, c'est exceptionnel. En fait, j'ai quelqu'un qui l'a acheté sur PlayStation. C'est comme ça que j'ai joué la première fois. J'ai fait « j'adore ça ». Puis quand j'ai vu qu'il était sur les applications mobiles, j'ai fait « ah, je vais l'essayer mobile ». Puis c'est vraiment plaisant à jouer de façon mobile. Puis aussi, ce que j'aime dans ces jeux-là, parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'en parlais un peu hors d'onde avant qu'on rentre en onde, mais j'ai un... problème de dépendance au jeu sur mon téléphone. Mais ce jeu-là, tu joues contre l'ordinateur. Tu peux t'arrêter à tout moment. Tu peux littéralement quitter l'application, ça va rebooter où est-ce que tu étais rendu dans ton combat. Puis même si vous êtes en train de perdre, vous pouvez juste rebooter votre application, ça va recommencer votre combat. Là, de même.
Je devrais peut-être y jouer sur mobile alors, parce que quand je joue sur console, moi je suis frustrée avec Slay the Spire. À chaque fois, je suis comme « mais pourquoi j'ai encore perdu? »
Ah, parce que t'as joué à Slay the Spire beaucoup?
C'est le genre de jeu où mon compagnon joue à Magic, dès qu'il y a des trucs avec des cartes et autres, il joue dessus, il joue 3 heures, il a fini le jeu en entier, et puis moi je suis à peine au premier niveau et je suis comme « j'y arrive pas, pourquoi j'y arrive pas? »
Puis c'est vraiment une question, tu sais, aussi de, tu sais, comme, mettons, dans tous les jeux que j'ai sur mon téléphone, c'est probablement le jeu que je joue activement là, à tous les jours, qui est de la plus grande qualité. Là. Je vais y revenir un peu sur les applications mobiles, mais juste pour vous dire que jusqu'au 21 mai, donc d'ici en fin de semaine, là, le jeu est à 12,99 sur à 9,99 sur Switch, mais vous pouvez le trouver sur plein d'autres affaires, mais sur mobile, il est 12,99. Mais je vais en parler tout de suite vraiment rapidement là, des jeux mobiles, là, mais c'est parce que j'avais un ami qui travaillait, ben j'ai toujours un ami, là, mais il travaillait à l'époque dans une compagnie qui faisait des jeux mobiles. Puis c'était le premier qui il produisait des jeux mobiles gratuits avec comme une espèce de pay-to-win ou comme, tu sais, il est designer économique là, pour les jeux mobiles, puis il fait ça depuis vraiment longtemps. Puis ce qu'il m'avait dit, c'est tu peux jouer à des jeux gratuits parce que tu trouves ça le fun, ça te détend puis tout ça, mais si ce que tu veux, c'est une expérience complète de jeu comme vraiment satisfaisante avec comme le fait de d'avoir de la qualité, ça vaut souvent la peine d'acheter un jeu 2-3 piastres, mais d'avoir l'expérience complète de jeu que d'être dans une espèce de dans un jeu mobile qui est une espèce de recherche sans fin, en fait, tu sais, parce qu'il n'y aura jamais de fin. Puis même Slay the Spire, il me semble sans fin parce que
Il y a beaucoup de contenu.
Il y a énormément de contenu, mais aussi parce que, je veux dire, atteindre le niveau 20, ça va être infernal. Fait que, tu sais, puis c'est pas grave, parce qu'une fois que ta partie est finie, Une partie complète, là, à peu près, là, mais comme je dis, vous pouvez arrêter à tout moment, il n'y a pas de stress. Mais tu sais, comme une partie complète, c'est à peu près 2 heures, là. Fait que, tu sais, de monter les 3 étages, là. Donc, ça peut occuper vos rides d'autobus en masse. Mais voilà, si jamais vous. Tu sais. Moi, j'en achète plein, là, des jeux à 4-5$ sur mon téléphone là, de plus en plus, parce que je me dis que ça vaut peut-être plus la peine de faire ça que de, justement, m'accumuler des jeux gratuits qui, finalement, ne
vont nulle part.
Ouais. Puis, mais j'en ai des jeux gratuits qui vont nulle part. Là. J'en ai quand même quelques-uns.
Peut-être. J'en joue à tellement de jeux. Je vais pas dire jeux gratuits, mais je joue à beaucoup de jeux qui sont, en fait, juste des jeux de stratégie en ligne et ce genre de choses. Et que... Enfin, bref. C'est Slay the Spire, dans le même genre, il y a Monster Train qui est pas mal aussi... Mais enfin j'ai pas joué à celui-là, je regarde les autres jouer parce que comme je dis, c'est les jeux qui m'attirent, mais quand j'y joue, j'ai pas autant d'amusement.
Les roguelikes en général,
les jeux c'est ça. Mais si on est encore sur les jeux tablettes.
Est-ce que tu as trouvé c'était quoi la controverse?
Non, je la trouve pas, c'est...
Vous nous la faxerez à la maison.
C'est ça, j'ai lu à un moment un truc mais je retrouve plus l'article. Mais tant qu'on est sur les jeux mobiles, parce que moi en fait, je suis quelqu'un qui sépare mes jeux en fonction de quel type de jeu où je le joue.
Oui.
Genre mes jeux mobiles, ça va beaucoup être justement du visual novel et du point and click énormément. Puis mes jeux consoles, on va beaucoup plus être sur du jeu narratif qui dure 40 à 60 heures avec une histoire, la Final Fantasy, Persona, etc., etc. Et mes jeux PC, c'est énormément des jeux de stratégie et simulation, beaucoup. Mais donc là, tant qu'on est sur les jeux tablettes, je voulais parler de la compagnie Inkle qui fait aussi énormément du, je vais pas dire du visual novel, c'est plus du texte dont vous êtes le héros en dans le genre en fait. Puis j'ai vraiment adoré deux jeux de cette compagnie. Il y a eu 80 Days qui est donc une réécriture de voyage du tour du monde en 80 jours où on est dans un monde plus steampunk, puis on joue le valet de Phileas qui est donc passe-partout. Ça démarre où t'es en Angleterre, puis ton Phileas...
Je l'ai jamais fini le tour.
Je l'ai fini plusieurs fois mais jamais de manière satisfaisante. Il y a une fois, j'ai tellement été déçue parce que Passepartout était dans une relation amoureuse avec un gars dans le pôle Nord et tout, et j'ai jamais retrouvé le gars.
Oh.
Et j'ai vraiment été très, 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 très déçue. Apparemment, il y a une fin où tu finis en mode t'abandonnes Phileas et puis tu restes vivre avec lui en amour avec ce gars que t'as rencontré et tout et tout. Et j'ai jamais été capable de le faire.
Oh non.
Donc là, c'est pareil. C'est beaucoup de textes, mais c'est aussi de la gestion de ta valise, de ton temps de voyage, de ce qui se passe. T'influences la vie de Phileas, puis t'essaies de faire le tour du monde donc le plus rapidement possible. Puis l'autre jeu qu'ils ont fait aussi, que j'aime beaucoup, ça s'appelle Overboard. On parle souvent de jeux d'enquête policière, puis d'enquête policière en général, etc. Tiens, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était même pour parler des enquêtes de blanc.
Oui.
Puis ben celui-là, Overboard, en fait, c'est ça. On joue une femme qui, c'est une ancienne actrice célèbre qui s'en va à New York avec son mari. Puis son mari, il la trompe et sur le bateau, elle le pousse à l'eau. Et il tombe, il meurt. Et en fait, on a tout le voyage jusqu'à New York pour ne pas se faire coincer par l'équivalent de Hercule Poirot / Sherlock Holmes qui est sur le bateau.
Mmh.
Et il y a différentes méthodes de le faire. À date, j'ai réussi une seule fois à pas me faire arrêter. Une seule fois. Et j'ai réussi parce que j'ai tué tous les témoins. J'ai tué une vieille femme qui m'avait vu quitter le bateau. J'ai dit que c'était la maîtresse qui l'avait fait. J'ai couché avec le capitaine pour qu'il soit de mon bord. Enfin bref, vraiment atroce, mais très très fun à jouer, très très bon. Puis pareil, un petit côté puzzle et autres parce que le jeu marche avec le temps qui passe. Donc on a des actions choisies par rapport à là. Il est 11h, tu peux aller soit à la cabine parler à la dame qui t'a vu ou aller voir le capitaine du bateau et autres. Et en fonction de ce qu'on choisit, ben ça déplie plus ou moins. Une stratégie différente, en fait.
Puis comme je voyais, c'est quand même entre 10 et 18 $ canadiens, celui-là. Puis
ouais.
Le 80 Days est 15 $ sur tablette en général, que tu avais mis 15 $ ou c'est...
Je crois que j'ai pris le prix Steam pour 80 Days, mais je sais pas si sur tablette il est moins cher ou non. J'ai pas...
Parce que c'est ça l'affaire, c'est qu'à un moment donné, il y a l'enjeu... On n'a pas toutes les consoles, mais il y a aussi l'enjeu, je trouve, de... Il y a des jeux qui se jouent très bien. Il y a des jeux que j'avais achetés sur une console que j'ai fait « Oh, ben, ça va être vraiment plus le fun sur celle-là, finalement. » Fait que, tu sais, je trouve que d'aller lire des fois sur des blogs puis de comme aller voir la... Tu sais, comme j'avais acheté... c'était This War of Mine, ouais. Que j'avais acheté sur Switch. Parce qu'il y avait, il y avait un bundle puis c'était vraiment pas cher, mais finalement ce que je lisais c'était que c'était une des pires versions parce que au niveau des commandes de déplacement puis tout ça. Donc des fois ça vaut vraiment la peine de valider justement sur quelle console est-ce que le jeu est le plus agréable à jouer. Puis souvent sur Switch c'est plate, mais c'est là aussi que c'est le plus cher. T'sais.
Oui.
Mais c'est pas tout le temps vrai là, mais c'est souvent ça. Je trouvais là, en tout cas. Là. Hey, j'ai envie de te conseiller un jeu. En fait, là, je suis vraiment pas dans la même game. Là. Depuis tantôt, on parle beaucoup de jeux comme peut-être plus indie et tout ça. Mm. Mais j'avais envie de te parler de XCOM.
Yep.
Parce que, tu sais, comme je disais, que Slay the Spire, mettons, je sais pas si ça détend, là, mais au moins, vous pouvez l'arrêter à tout moment. T'sais, XCOM, c'est des jeux qui sont un petit peu plus demandants. Mais vu que c'est des turn-based, c'est quand même... Comment je pourrais dire? On n'est pas dans la performance de joystick, là. On est vraiment dans une logique de comme stratégie et tout ça. J'ai été vraiment surprise, en fait, de voir que XCOM Enemies Within, donc il y avait XCOM Enemies Unknown, qui était la première version du jeu qui était sortie en 2013. Non, c'est Enemies Within qui est sorti en 2013. Mais en tout cas, la première version de ce jeu-là, qui a ajouté donc le DLC Enemies Within. Moi, c'est à celui-là que j'ai joué sur Xbox 360 dans le temps. Et c'était... c'est pour vous donner une idée, là, si vous connaissez pas XCOM, là, c'est un jeu de turn-based. Donc, vous avancez vos personnages sur une map et vous essayez d'atteindre un objectif. Parfois, c'est un peu à la... Catch the flag, des fois c'est un peu tue tant d'ennemis, des fois c'est ramène tel item et tout ça. Et la prémisse, c'est que nous sommes sur Terre, mais il y a des envahisseurs extraterrestres qui arrivent et vous êtes la résistance, donc qui armée de la Terre, qui doit gérer. Parfois dans vos bases, donc vos ressources, vos recherches, vos satellites pour protéger le monde. Et un peu à la manière de Pandémie, le jeu de société, il y a cette notion-là que oui, vous avez vos petites missions, mettons qu'il y a la gameplay plus de turn-based, mais vous avez aussi vos missions pour, si jamais vous créez pas assez de protection sur la planète va devenir comme trop chaotique. Votre force d'élite de soldats tactiques, de petite crew de 4, 5, 6, ça sera pas suffisant de toute façon. Donc, il y a quand même une course contre la montre de ce côté-là aussi pour protéger la Terre, donc dans plusieurs types de gameplay. Enemies Within, c'était bon, mais quand on jouait à XCOM 2, on pognait une maudite coche. Mais j'aimerais juste vous dire, pour pas trop aller tout de suite sur XCOM 2, qu'en ce moment, le jeu existe sur le App Store à $6.99 canadiens. Et la cote, puis souvent, je me fie aux cotes là, quand il y a des transitions de jeux vidéo plus sur console qui tombent sur mobile. Puis la cote est de 4,5 sur 5, puis il y a plus de 600 votes. Fait que je me dis, OK, c'est quand même assez unanime que le jeu a une bonne transition vers le mobile. Puis on peut comprendre aussi pourquoi est-ce que la transition vers le mobile se fait bien, justement parce que c'est turn-based. On n'est pas dans une logique que la manette est nécessaire. Fait que je trouvais ça intéressant. Je ne l'achèterai probablement pas parce qu'à un moment donné, comme...
Ben, tu peux pas les avoir partout.
On peut pas les avoir partout. Mais si à un moment donné, j'ai vraiment le goût de jouer à XCOM puis que ben ma 360, je veux dire, ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas plugué. Mais il y a XCOM 2 qui est un jeu qui dans le fond, reprend beaucoup du gameplay, qui va, au niveau du lore, va le rendre encore plus riche. On est encore dans les mêmes gameplay de tout ça. Ah, puis le but important aussi, c'est que vous pouvez augmenter les capacités de vos soldats, mais si votre soldat meurt en mission...
Il est parti.
Il est parti pour toujours. Fait qu'il y a cette notion-là de voir comme builder des équipes le plus efficacement possible, parce que si vous perdez votre soldat d'élite que vous êtes rendu au niveau maximum, ben, il est mort, c'est fini. Fait qu'il y a quand même cette notion-là aussi de non-retour. Mais XCOM 2 avait des... Au niveau du gameplay, était...
Extrêmement punitif.
Oui, mais j'allais dire en fait qu'au niveau de parce qu'il y avait des affaires dans XCOM Enemies Within qui gossaient, c'est comme oui, mais techniquement je le vois, mais techniquement je suis caché, mais là tu sais comme il y avait comme des gossages, puis XCOM 2 a tout réglé ces problèmes là. C'est vraiment un jeu super bien fait, mais même si c'est un jeu de 2016, il est très 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 dispendieux. J'étais vraiment surprise à quel point il était encore très cher. Je voyais que sur Steam, si je me rappelle bien, tu peux avoir le bundle des deux jeux, mais c'est comme à 120$, tu sais.
Oh, God!
Ouais, c'est vraiment cher, là, pour un jeu qui a comme 8 ans, là, comme, ouais. Comme ben, 7 ans, là, mais 8. Ouais, en tout cas, j'arrive plus à compter, là, il est tard, là. Mais, je trouvais ça vraiment cher. Mais, pour les deux prochaines semaines, XCOM 2 est à 2,99$ sur Xbox.
OK.
Fait que c'est le temps, là. Faut le pogner là, là, si vous avez une Xbox, là. Parce que 2,99$, c'est vraiment pas cher pour un jeu de vraiment, vraiment bonne qualité, avec une certaine rejouabilité aussi, parce que même si l'histoire est assez linéaire, puis qu'il n'y a pas vraiment, tu sais, c'est quand même le fun de d'essayer des nouvelles stratégies, d'augmenter des nouveaux personnages et tout ça. Puis moi, j'attends avec impatience un nouveau XCOM 3, puis à chaque fois que j'essaie d'aller lire là-dessus, de ce que je comprends, il n'y a rien, là. Mais XCOM vient de sortir un jeu mobile dont le nom m'échappe, mais les critiques sont atroces, là. Le jeu, il est buggy. Peut-être qu'il va être super bon, mais c'est vraiment un jeu mobile, là. C'est pas un jeu. Peut-être que c'est un genre de pay to win à toutes les autres, là. Mais ouais. Mais Enemies Within, qui semble être super bien, qui a une super bonne transposition mobile, puis XCOM 2, qui est un excellent jeu si vous avez l'argent pour l'acheter au complet ou sur n'importe quelle plateforme, mais sinon 2,99$ sur Xbox. À toi.
Je t'avoue que je suis un peu comme... Je sais pas si je rebondis sur le gameplay de XCOM ou sur la thématique de XCOM.
Ah, ben vas-y pour les deux.
Alors, si je rebondis plus sur... Enfin, sans les deux sont publiés par Paradox, qui n'est donc pas un petit indie. Paradox, grosse machine, qui édite beaucoup de choses. Mais si je voulais rebondir sur le gameplay, je parlerais peut-être de la série des Shadowrun qui ont été adaptées en RPG. Parce que c'est pareil, le déplacement et autres, c'est pareil, c'est un tactique RPG. Donc, tu déplaces tes personnages, ils ont chacun leur capacité, etc., etc. Mais ils ont des... Je crois qu'il y a eu 3 jeux qui sont sortis. Il y a eu Shadowrun Hong Kong, et puis il y en a un troisième qui m'échappe, puis qui sont actuellement vendus en bundle, les 3 pour 50 pièces, je crois. Puis,
sur Steam
Je les ai vus sur Steam, je les ai vus sur le Game Pass, je les ai vus sur Xbox. De toute façon, ils sont genre à moins de 20 pièces pour chaque. Et j'ai vraiment eu du plaisir à y jouer.
Tu le conseilles sur quelle console?
Moi, je les ai joués sur PC en premier, parce que généralement, mes jeux de stratégie, mes jeux un peu plus tactiques, je les aime bien sur PC, en dehors de Fire Emblem, qui sont spécifiquement sur ma Switch. Mais non, c'est ça, c'est des bons... J'ai trouvé qu'au niveau du monde, avec le côté fantasy et en même temps steampunk et autres, ça me parlait bien, j'étais vraiment fun dedans, puis les histoires étaient vraiment cool. Il y a vraiment comme un côté... J'aime beaucoup jouer le hacker en plus, donc j'ai mon petit côté, je vais sur la machine et je laisse les autres taper.
Mais c'est steampunk ou c'est cyberpunk?
Je crois que C'est Cyberpunk. Okay, pardon.
Aucun souci.
Non. C'est parce que dans ma tête, Steam s'est mélangé avec le fantastique Steam. Puis non, c'est Cyberpunk, mais avec des créatures fantastiques.
Je comprends.
Il y a des dragons, il y a des elfes, il y a des orques. Donc ça a été un de mes petits plaisirs à jouer là-dessus. Puis si on est plus sur le côté alien, puis ce genre de choses, ben là, je voudrais parler de Stellaris, qui est comme un jeu de stratégie de Paradox, mais un jeu de stratégie RPG, où tu crées une race alien, puis ensuite, c'est ton évolution dans la galaxie, avec beaucoup de... Comment on appelle ça ? De clins d'œil à Star Trek, à Star Wars, à pas mal de lore dans la science-fiction, etc., etc. Mais c'est parce que Paradox, en ce moment, a une grosse, grosse promo, puis il y a pas mal de leurs jeux qui est à moins de 50%.
OK.
Puis,
À plus de 50% ou à...
Qui est minimum 50% de...
OK, donc qui est à moins...
Moins 50%
de la valeur habituelle.
C'est ça. Puis bon, le problème, c'est que Paradox a souvent des ventes, mais Paradox est aussi le roi du DLC, hein. Donc, mais j'aime beaucoup leurs jeux, tu sais, City Skylines, Stellaris, Crusader Kings. C'est Crusader King. À l'heure actuelle, il y a un nouveau DLC qui vient de sortir, puis je passe ma vie dessus et je suis comme, il se passe plein de conneries, je suis fan. C'est des jeux qui coûtent cher en général, même si Crusader King 2, par exemple, qui est la version d'avant, qui est encore extrêmement bien jouable, mais bien sur PC, est devenue gratuite maintenant.
Ah, OK.
Ouais, mais c'est un jeu...
C'est quoi que... j'ai vu les images tout le temps, mais je sais même pas c'est quoi.
Mais grosso modo, c'est un jeu grande simulation stratégie. Donc, t'es à l'époque des croisades. Puis tu choisis donc quel titre tu as. Tu sais, si tu joues avec un baron, un comte, un duc, un roi, donc quel endroit tu es. Et le but, c'est de faire régner ta dynastie le plus longtemps possible.
Okay.
Donc, tu gagnes pas parce que t'as conquis toute l'Europe, par exemple, mais tu gagnes parce que ta dynastie est la plus connue.
OK.
Donc, le but, c'est de survivre.
Puis le gameplay, c'est du RPG, c'est du...
T'as des éléments de RPG avec des textes qui arrivent où tu fais des choix, etc. T'as aussi des éléments de stratégie dans le sens où tes personnages, ils ont comme des caractéristiques. Est-ce qu'ils ont du charisme, la diplomatie, de la séduction, de l'espionnage? Est-ce que ce sont... des gens doués avec l'argent ou pas, puis ils ont des traits de caractère qui influencent leurs statistiques et leurs décisions. Et puis, t'as des éléments un peu random qui arrivent aussi. Tu sais, genre, dernièrement, en ce moment, je joue beaucoup dans la péninsule ibérique, donc au niveau de l'Espagne, mais à l'époque où les musulmans étaient en Espagne. Puis, j'ai comme une religion qui est un mélange entre le catholicisme et les musulmans. Mmh. Puis, le pape a décidé de faire une croisade contre moi. Donc, pour éviter d'être rayé de la carte par toute l'Europe, bah, j'ai décidé de devenir catholique. Mais depuis que je suis devenue catholique, t'as tous les musulmans qui me font la guerre. Tu vois, puis, donc, t'as toujours ce côté comme, j'essaie de survivre, mais il faut que je manage un petit peu ma place aussi dans le monde, etc., etc. Enfin, moi, j'ai énormément de fun dessus. Là, j'ai découvert aussi t'as des blagues un peu malvenues. Il y a énormément de blagues autour de l'inceste avec Crusader King. Faut quand même être, si tu vas dans les communautés, faut être au courant parce que ça arrive dans le jeu. T'as beaucoup de blagues aussi sur... Enfin, ils se sont calmés dans le 3, mais dans le 2, t'avais énormément de choses où tu pouvais avoir toute une famille de sorciers, où t'étais pas gagne, où tu faisais des combats d'échecs avec la mort.
Beaucoup de surnaturel, bref.
Il y avait beaucoup de surnaturel dans le 2. Dans le 3, ils se sont beaucoup calmés là-dessus. Là. On est beaucoup dans les joutes. Ils ont fait un nouveau DLC où maintenant, t'as des champions, puis tu combats à cheval avec, puis ce genre de choses. Enfin, moi, j'ai du fun.
Bye. C'est super, minus les blagues inappropriées, mais ou les tu sais là tout ce qu'on dit. Oh ouais, mais c'est pour faire plus médiéval, on met des choses plus trash.
Non, c'est vraiment honnêtement, quand t'es dedans, tu prends le truc comme il vient et t'es un peu en mode mais c'est pas vrai, puis tu deals avec.
Mais parlant de controverse, écoute, je vais vous parler d'un petit jeu là, puis j'ai hâte d'avoir tes commentaires en fait, parce que je voulais vous parler de Unpacking. Qui est fait par la même compagnie que Slay the Spire, en fait, par Humble Game.
Non, c'est les éditeurs Humble Game, mais le développeur, c'est Dreamwitch.
Ah ouais, mais t'es comme plus au courant que moi. Moi, je suis
en
très...
gros, Humble Bundle, Humble Game, ce qu'ils font, c'est qu'ils parlent au développeur, le développeur crée le jeu, et ensuite, eux, ils font, bah, nous, on va prendre ton jeu et on va le mettre en vente.
OK.
C'est ça, un publisher.
OK. Fait qu'ils font pas de jeux.
Ils font pas de jeux, mais ils donnent des sous pour que les gens créent des jeux pour eux.
C'est des producteurs, OK. Je
comprends. Ouais, c'est un peu ça l'idée.
OK. Ben, ils sont produits par la même affaire que Slay the Spire, mais c'est vraiment différent. Mais ça, tu vois, tu me dis ça, puis je comprenais plus qu'est-ce que j'essaie de regarder, parce qu'en ce moment, Humble Bundle... Là,
ils ont des promos aussi, là.
Ah, énormément, ouais. Là. Ça avait comme... J'ai regardé leur site hier soir, puis j'étais comme, wow, OK, il y a vraiment plein de spéciaux. Mais j'étais comme, man, ça va dans tous les sens, cette affaire-là. Mais tu vois, ça, ceci explique cela.
C'est un peu comme une grosse maison d'édition, en fait. Puis ils ont différents auteurs qui proposent leurs livres.
Mm-hmm. Puis Unpacking, donc, qui est un jeu que moi, j'avais joué parce que tout le monde qui avait commencé à y jouer quand le jeu était sorti se disait que c'était un jeu super le fun puis super qui détendait. Mais je pense que je sais où tu t'en vas avec ton commentaire que tu m'as laissé en commentaire de notre préparation. Mais... si vous aimez ce type de jeu-là, ça va marcher. Donc, vous êtes une personne qu'on assume être une femme. En fait, c'est dit que c'est une femme.
Assumé, je crois.
Dans le fond, on visite avec cette personne-là sa vie à travers ses déménagements. Donc, la première fois, c'est il faut qu'on vide nos boîtes. Dans notre nouvelle chambre, on doit avoir comme 8-9 ans. Là, je sais pas trop quoi. On est jeune, on est à l'école. Mm-hmm. Et on va... faire, comme je dis, donc, le passage donc de l'école au dortoir du collège, à l'appartement avec tes colocs universitaires, avec le
premier amour.
Le premier amour.
La rupture.
La première rupture. Et voilà, voilà, voilà. Ce qui est trippant, c'est qu'à chaque fois, on voit qu'est-ce qui est resté.
Mm-hmm.
On voit qu'est-ce qui n'est pas resté. On voit aussi... il y a des moments où est-ce qu'on va avoir vraiment énormément de difficultés à bâtir notre maison ou à, ben, comme à placer nos objets. Puis on va comprendre que peut-être qu'on est dans un environnement où on nous laisse pas de place, en fait. Puis qu'il va falloir prendre des décisions de qu'est-ce qu'on ne va pas déballer parce que finalement, on nous laisse pas de place. Puis on va avoir aussi des endroits où est-ce qu'on a... tout est à nous, mais où est-ce que l'espace manque parce qu'on est dans cette période-là de la vie où comme il faut... diminuer ce qu'on a. J'ai trouvé que c'était une histoire toute simple, mais très touchante, avec un gameplay, encore une fois, répétitif, parce que on fait juste placer des items à des endroits, mais que la simplicité était quand même, nous apportait énormément de matière. C'était très touchant, mais... Pourquoi ça t'a stressé, ce jeu-là, Amélie?
Je sais pas, je pense que c'est venu taper dans mon côté un petit peu compulsif, là.
Ouais, ouais, ouais.
Tu sais, je voyais mon compagnon jouer, j'étais comme, mais non, mais ça se met pas là, ça se met pas là. Mais non, mais tu vas pas ranger ça là, voyons. Au point où, à un moment, j'ai pris la manette et il est parti, puis j'ai comme, je jouais, mais tu sais, genre, faut ranger. Et à un moment, j'ai comme, non, je suis pas en train de m'amuser, je suis pas en train de profiter du jeu et autres, je suis juste en train de répondre à des tâches de manière compulsive.
C'est vrai. Si vous êtes dans une période où vous avez de la misère à faire votre ménage, c'est peut-être pas le bon temps, mais si vous êtes une personne qui, ça va peut-être faire du bien de juste classer des choses, là, ça pourrait marcher.
C'est ça.
Mais ça finit bien, c'est une histoire qui finit bien. Et qui est très touchante, comme je disais. Mais effectivement, c'est faut être dans le mood. Malheureusement, je viens de réaliser que je n'avais pas noté le prix. Mais moi, j'ai joué sur Switch. Je sais pas si... Ben,
moi, j'ai joué sur Xbox. Il est facilement trouvable. Il n'est pas si cher que ça.
Pas si cher que ça, mais en même temps, c'est un jeu qui est quand même pas si vieux que ça non plus.
Non.
Donc, pendant que tu nous présentes peut-être un autre petit jeu, moi, je vais faire la petite recherche.
Ouais.
Il est à 11,99 sur Steam en ce moment, à 40% de rabais. Donc, voilà.
Voilà. Bon, je pense que je vais parler de Calico parce que c'est un petit jeu pareil qui, moi, personnellement, m'a bien détendu. C'est un jeu qui est développé par Peachy King Games que j'avais acheté sur Itch.io.
Ah ben oui,
oui.
On en parlait là, de toute cette multitude de plateformes.
C'est ça, j'avais acheté dans un bundle sur Itch.io, donc il m'avait coûté, le jeu est à 15 pièces, mais il m'avait coûté moins que ça vu que j'ai acheté dans un bundle avec je sais pas combien de jeux. Puis c'est un jeu où on gère un 4 cafés dans un monde un peu magique. Puis, en fait, il y a beaucoup d'exploration, beaucoup de personnages avec qui on parle, un peu, c'est un peu dans le même truc que Animal Crossing, ce genre de choses. Il y a un côté très bien-être, très casual, très, décoration, puis on a de la magie où on peut genre agrandir les chats pour qu'ils deviennent géants, puis tu te balades sur le dos du chat, puis après tu peux le remettre petit, tu peux le mettre sur ta tête comme un chapeau, tu peux mettre un chat sur la tête d'un autre chat qui est géant, enfin plein de petites choses comme ça, c'est très pastel, c'est très mignon. Les personnages ont comme ils te demandent de l'aide pour des choses, mais tu sais ils sont pas en crise, ils sont dans... Tu débloques petit à petit des endroits. Tu débloques la montagne avec la neige. Tu débloques la forêt des sorcières. Tu rétablis certaines connexions parce qu'il y a des gens qui sont plus amis parce qu'ils ne se sont pas vus depuis longtemps. Puis tu commences à recréer des chemins entre eux pour s'échanger des lettres, etc., etc. C'est vraiment très, très cute. C'est adorable comme tout. Puis,
ça veut dire quoi, Calico?
Calico, c'est une race de chat.
Ah, ceci explique cela. Parce que j'avais joué à un jeu qui s'appelait Calico, mais c'était un board game.
Ok.
C'était un board game. Puis c'est un jeu où est-ce qu'il faut que tu places des pièces sur une courte pointe,
ouais,
pour attirer des petits chats pour qu'ils viennent faire dodo.
Oh.
Ouais, c'est. Puis le jeu, les petits chats que tu dois mettre sur ta courte pointe, c'est des vrais chats qui ont existé et dans le livre des règles, tu as leur description.
D'accord.
De c'était quoi leur tempérament et tout ça, c'est vraiment mignon. Mais oui, des jeux qui font du bien, bref.
C'est ça, c'est un jeu qui fait du bien.
Sinon, en parlant de jeu qui fait du bien,
oui.
Moi, je vais arriver bientôt à la fin de mes suggestions, mais je voulais rappeler, en fait, un jeu qu'on a parlé en masse à l'émission, mais c'est Stardew Valley. En fait, pourquoi j'en parle, c'est qu'en ce moment, je regardais les prix, puis c'est un jeu qui est... Stardew Valley, en ce moment, est à 5, entre 5 et 20 piastres US sur plein de plateformes différentes. Là, on peut y jouer. Moi, je l'avais sur Switch, je l'ai sur mobile aussi. Je trouve que c'est un jeu qui joue bien sur Switch. Là. C'est un jeu qui joue bien
sur... J'ai pas aimé la version Switch. Je suis vraiment plus à l'aise sur la version PC.
Mais assurément, en fait.
Ouais.
Parce que la seule affaire, comme je dis, c'est que le problème, à un moment donné, c'est qu'on a trop de... On peut pas l'acheter sur 40 places non plus. Là.
C'est ça.
Mais quand je regardais les gens, mettons, sur Twitch, jouer sur PC, j'étais comme, OK, c'est ça la bonne version.
Ouais.
C'est comme ça que je devrais jouer. Mais il est vraiment pas cher en ce moment. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que le créateur du jeu... est en train en ce moment de faire une mise à jour importante qui va grosso modo augmenter ce que vous pouvez faire en multiplayer, mais aussi qui va ajouter une multitude de nouveaux dialogues et apparemment peut-être d'autres choses, mais voilà. Donc c'est à surveiller donc pour les mises à jour qui s'en viennent de Stardew Valley. Puis de ce que je comprends, c'est que c'est une mise à jour qui va s'installer automatiquement si vous l'avez déjà.
Ouais.
C'est pas un DLC que vous allez acheter là. Ça c'est quand même cool. C'est peut-être le temps de s'y replonger. Moi, Stardew Valley, j'ai adoré ça. Je n'ai jamais fini.
J'ai jamais fini non plus.
Hey, je pense que je me suis rendu une fois à l'année 2. Parce que à chaque fois, je fais comme... Oh, je vais recommencer au début. Mais faudrait que je persévère.
Mais moi, c'est parce qu'à chaque fois, je veux faire la danse avec un des personnages, là, le gars qui est écrivain avec ses longs cheveux et tout. Mais
assurément.
Et puis, à chaque fois, j'y arrive pas. Alors, à chaque fois, je vais recommencer ma partie.
Parce que tu veux danser avec lui la première année?
Ouais, ouais. Ben, pas forcément pendant la première année, mais c'est que la deuxième année, j'avais raté aussi parce qu'il a tellement des horaires spécifiques que j'avais pas assez de cœur.
Mmh.
Et j'étais comme frustrée.
Ah, moi, c'était rendu que genre, j'avais lu son roman pis tout, là.
Ah non, t'as été beaucoup plus loin que moi.
Oh ouais. Là, j'étais rendu. Je pense qu'on était rendu au point, là, comme je pouvais y offrir une bague, là.
Non, moi, c'est le seul que j'arrive pas. Les autres, oui, mais lui, j'arrive pas. Je sais pas pourquoi.
C'est peut-être le plus mystérieux. T'as réussi avec celui qui boit du soda?
Ouais.
Assez facilement?
Ouais, bah c'est celui que j'étais le plus facilement avancé.
Ah! Ben, écoute donc.
Je sais pas. C'est
qu'avec la mise à jour, il va devenir plus accessible.
Peut-être.
À voir.
Je pense que c'est juste parce que j'ai jamais eu mon... Je joue de manière un peu trop efficace. Tu sais, dans le sens où, ah, faut que je prenne tel poisson à telle heure, tel machin à telle heure, tel machin à telle autre. Puis du coup, à chaque fois, il passait entre les mailles.
Hey, là, t'as tellement de jeux qui te restent à parler.
Ouais, je vais aller sur mes préférés. Puis c'est pas très grave pour les autres. Un que j'aime beaucoup en ce moment, c'est Dorf Romantic.
Mm-hmm.
C'est un jeu qui coûte 16$ sur Steam. C'était développé par Toucana Interactive, qui malgré le nom est une compagnie allemande. Qui à la base est né d'une game jam, et en fait c'est un jeu de stratégie où on doit comme placer des tuiles pour connecter des forêts ensemble, et un peu comme Settlers of Catan en fait, où le but c'est d'avoir le plus de maps possible, puis d'agrandir. Il y a des petits challenges qui arrivent tous les mois, etc. Pareil, c'est très cute, la musique est douce et tout, ça permet de faire travailler un petit peu son cerveau, mais c'est pas non plus en mode compétition. Ils ont même un mode où c'est juste créatif, où tu crées des maps toi-même, puis que tu t'amuses avec ça. Donc celui-là, j'ai beaucoup aimé. Sinon, un autre que je voulais parler vite fait, peut-être Haven, qui est un jeu de coopération fait par The Game Bakers. C'est... On est vraiment obligé, enfin, on peut jouer seul, mais le jeu est vraiment fun quand tu joues à deux. Moi, j'y ai joué avec mon compagnon. C'est sur un couple d'amoureux où leur amour est interdit sur leur planète. Donc, ils sont partis sur une autre planète où ils sont tout seuls. Puis, t'as vraiment des phases d'exploration où t'es vraiment à te balader sur une map, à combattre des ennemis et autres. Puis, t'as une espèce de scooter volant, en fait, qui va dans tous les sens. Et puis après, t'as des phases où t'es plus dans la maison, en train de vivre ta vie, cuisiner ensemble, discuter ensemble. Et chaque joueur vit son personnage. Donc, il choisit son interaction quand il discute, quelles questions il se pose, quelles réponses il donne, etc., etc. J'ai vraiment beaucoup aimé ces deux-là.
Bah, ça me donne vraiment envie de jouer. Ouais. C'est cool. Et puis, un autre, on a le temps.
Bon, on peut faire un petit dernier vite fait. Je voulais peut-être parler de... Allez, je vais aller avec Reus d'Abbé Banks, qui coûte à peu près $10 maintenant, parce que le jeu date de 2013. Pareil, c'est un petit jeu de stratégie, simulation. C'est un jeu où tu es dieu. Oh. Donc, ton but, t'es dieu, t'as des gardiens qui terraforment la terre par rapport à ta volonté. Donc, t'en as un qui s'y met de l'eau, t'en as un qui s'occupe de faire des montagnes, t'en as un qui s'occupe de faire la forêt, etc., etc. Et puis, t'as des humains qui s'installent sur ta planète et tu réponds à leurs besoins, à leurs demandes. Puis, si tu réponds pas assez, ils sont pas contents, ils vont tuer tes gardiens, etc., etc. Le but, c'est de faire prospérer le maximum possible tes humains pour qu'ils soient heureux, puis qu'ils aient des grosses villes, etc., etc. Et de voir un peu leur histoire se développer. Puis, le jeu est un peu vieux maintenant, mais ils viennent juste d'annoncer qu'ils vont en sortir Dreus 2 dans les... Je sais pas si c'est les mois qui suivent ou dans l'année qui suit, dans pas très longtemps, donc j'ai assez hâte.
Ah, moi, j'adore ça, les jeux. Tu sais, moi, un de mes jeux préférés, c'est Frostpunk. Là.
Ouais.
Fait que répondre à des besoins, fait que ça.
Ah, j'aime beaucoup ce genre de jeu aussi. J'ai tellement joué à des jeux dans ce genre-là, comme... Ah, je sais plus comment il s'appelait, ce jeu où tu pouvais comme... T'étais dieu aussi, mais t'étais dieu de la lumière ou sombre, puis tu pouvais genre motiver en donnant des baffes à tout personnage et puis ce genre de choses. Enfin, un peu à la Dungeon Keeper, mais plus godlike, quoi.
OK.
J'ai oublié le nom.
Oh,
bah, il va me revenir. C'est un vieux jeu, ça date des années 90-2000.
Bah, si ça vous revient, vous nous le faxerez de la maison.
C'est ça.
Puis pour terminer, en fait, on voulait parler du concept de Game Pass, de tout ce qui est plus autour des abonnements sur des versions streamables, en fait, de consoles. Je vais te laisser commencer et je vais peut-être en ajouter un peu.
Ouais, mais c'est ça, c'est parce que moi, il y a beaucoup de jeux que je joue puis que j'ai pas eu l'occasion. Enfin, je veux dire que j'aurais jamais acheté par moi-même parce qu'on s'est abonné au Xbox Game Pass. Puis tu sais, par exemple, j'ai joué à Forza Horizon. Tu sais, je parle de personne qui va m'acheter un jeu de voiture. Mais là, j'étais une journée, j'avais pas grand-chose à faire. Je me suis dit, bon, tu vois, je vais essayer. J'ai eu du fun. Puis, c'est vraiment un truc, je pense, adolescente, j'aurais été heureuse de pouvoir avoir ça, tu sais, payer, je crois, combien on paye, là je sais plus à combien est l'abonnement, 20 pièces par mois, un truc du genre. Enfin, c'est à peu près l'équivalent d'un abonnement Netflix ou un truc du style. Puis, t'as accès à tes jeux toute l'année, etc., etc. Si tu veux pas les collectionner, que tu veux juste jouer parce que c'est la nouveauté du moment et que tu veux les faire, moi je trouve que c'est un bon compromis par rapport à acheter ton jeu qui coûte super cher et que tu vas jamais rejouer par la suite.
Ben oui, puis tu sais, moi, c'est plus au niveau de PlayStation là, en ce moment que j'ai la console la plus récente que j'ai, c'est une PlayStation 4. Puis c'est vraiment l'idée de la PlayStation Plus Premium Essentiel Extra là, qui va te donner accès à un catalogue de vieux jeux, un catalogue complet, un catalogue de nouveautés, mais qui te permettent de télécharger un jeu. Je sais plus lequel qui te donne ça là, parce que je suis pas abonnée, parce que ça vaut pas la peine en ce moment. C'est vraiment ça vaut la peine quand on joue beaucoup, puis pour tester des jeux qui se jouent en 20 heures, c'est exceptionnel là, comme concept. Le problème, c'est ça, c'est que comme si vous êtes comme moi, puis que c'est comme ben moi je joue à un jeu, mais j'y joue pendant 6 mois là, souvent là, ces temps-ci là, comme quand c'est pas un jeu mobile, ben ça vaut peut-être moins la peine. Mais tu vois là, mettons comme PlayStation Premium pour une année, c'est 130$.
Ouais.
130$, c'est un jeu AAA en ce moment avec toutes les DLC. Fait que du moment où est-ce que vous jouez à vous vous dites c'est sûr que cette année je vais finir au moins 2-3 jeux nouveaux, vous rentrez déjà dans votre argent.
Ouais.
Fait que c'est vraiment l'idée, mais c'est une question, est-ce que ça va valoir la peine. Mais vous pouvez aussi vous abonner juste pour un mois puis voir si ça a valu la peine ou de vous pour vous abonner à long terme. Mais c'est clair que, tu sais, moi, pendant la pandémie, je me suis abonné à celui-là, à un bundle comme ça. Ça m'a coûté 90$ pour l'année, mais je veux dire, en confinement, au bout de 3 mois, j'étais rentré 4 fois dans mon argent, là, tellement j'avais joué à des jeux vidéo. Là.
Moi, c'est beaucoup pour le côté, je peux tester des jeux que je m'achèterai pas, et si vraiment je les aime, je vais pouvoir les mettre sur ma wishlist, puis me les acheter à un moment.
Bonne idée. Ben, écoute, on n'est même pas arrivé au bout de nos suggestions, mais ouais. On est arrivé au bout de notre temps.
C'est ça.
OK. On vous encourage aussi à nous écrire sur Facebook, sur la publication de l'épisode, pour nous donner vos suggestions de jeux, pour qu'on puisse continuer à le faire de façon ludique et, si possible, donc, disponible au niveau de l'argent. Merci énormément! Amélie, je faisais trop d'affaires avec l'ordinateur pour
clore. Ça m'a fait bien plaisir!
Et on se dit à la prochaine fois pour d'autres Amazoneries. Bye!